sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et avec moi en studio aujourd'hui Dylan. Bonjour Dylan.
Bonjour.
Alors Dylan, tu vas nous parler d'un animal particulier. Vas-y, je te laisse la parole.
Okay. Alors aujourd'hui, je vais te parler du loup. Le loup, c'est appelé en latin Canis lupus ou loup commun ou aussi loup gris. Le gris est l'espèce de canidé la plus répandue. Il existe plusieurs sous-espèces comme le loup gris, le loup arctique et plein d'autres encore. Le loup est le premier animal à avoir été domestiqué par l'homme dans plusieurs zones. Les humains ont toujours été fascinés par les loups. Encore au cours des histoires, le loup gris est l'un des animaux les plus connus et les plus étudiés au monde. Les sous-espèces sauvages sont régulièrement comparées à certaines races de chiens domestiques de morphologie lupoïde, comme le berger allemand ou le husky, eux-mêmes appartenant à la sous-espèce Canis lupus familiaris. Le loup a plusieurs noms, le loup gris, le loup commun, le loup vulgaire ou encore loup. On peut aussi ajouter les chiens chanteurs, les chiens dingo en tant que sous-espèce. Le loup gris est le plus grand membre existant des canidés. Il est aussi social, chasse et alimentation. L'odorat du loup gris est relativement peu développé par rapport à celui de certaines races de chiens, de chasse, ce qui le rend incapable de repérer l'odeur de sa rogne contre le vent à plus de 2 ou 3 km. Localisation d'une proie. Le loup se met en quête d'une proie en comptant sur son odorat. La traque, les loups tentent de dissimuler leur approche. Plus les loups se rapprochent de leur proie, plus ils accélèrent leur rythme, remuent la queue et fixent intensément leur cible. La rencontre. Une fois que la proie a repéré les loups, elle peut charger, garder sa position ou fuir. Les grosses proies comme les élans, les wapitis, les bœufs musqués tiennent souvent la position. Dans ce cas, les loups restent en retraite ayant besoin de la stimulation d'un animal fuyant pour se mettre à l'attaque. Les loups ignorent ensuite la proie définitivement ou bien de l'inciter à courir. L'assaut. Si la proie tente de fuir, les loups poursuivent immédiatement. C'est l'un des points critiques de la chasse. Car il se peut que les loups ne rattrapent jamais leur proie si elle court à sa vitesse maximale. La poursuite. Dans la continuité de l'assaut, les loups tentent de rattraper leur proie, de la tuer. Trois grandes morsures sont généralement suffisantes pour abattre un grand cerf en bonne santé. Caractéristique des expressions agressives chez les loups. Les yeux, fixation directe grand ouvert. Les lèvres, contraction horizontale. Les oreilles dressées et avancées. La bouche ouverte. Les dents découvertes. La langue retractée. Le nez raccourci. Le front contracté. Tête tenue haute. Cou arqué. Poils dressés. Corps dressé haut, queue tenue haute tremblante, caractéristique expressive apeurée chez les loups, les yeux grands ouverts, enfin regard détourné fermé en fente, les oreilles aplaties, retournées sur le côté, la lèvre retraction horizontale, la bouche fermée, les dents couvertes, la langue étendue, le nez allongé, front étiré, tête baissée, le cou étendu, poil lisse, corps accroupi, queue cassée, tout le corps remuant. Les loups ont attiré beaucoup de légendes, par exemple Fenrir. Fenrir est un loup immense qui a été élevé par les dieux pour garder le contrôle sur Fenrir. Les dieux cherchent à l'enchaîner pour garder le contrôle sur Fenrir. Au début, ils faisaient croire à Fenrir que c'était pour tester sa force, mais les deux premières chaînes ont cassé. Car les chaînes n'étaient pas assez solides, alors les dieux ont décidé de faire appel aux nains pour faire une chaîne plus solide. Les nains avaient une chaîne bien plus solide, donc les dieux ont voulu attacher Fenrir, mais ils ne voulaient pas parce qu'ils se doutaient de quelque chose. Donc Fenrir a dit qu'il voulait bien tester la chaîne, mais à une seule condition, que j'ai la main d'un dieu dans la bouche. Un seul dieu a eu le courage de le faire, et ce dieu s'appelle Tyr. Donc une fois Fenrir attaché, et comme il voyait qu'il pouvait pas se détacher, il arracha la main de Tyr. Mais Fenrir réussira à se libérer et il dévorera tout sur son passage. Il tuera même le dieu Odin, mais il sera tué par un des fils vengeurs d'Antin.
Merci Dylan pour cette chronique sur les loups. Alors, est-ce que tu veux nous dire, nous expliquer pourquoi c'est un sujet qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te plaît autant dans cet animal?
Comment ils vivent en groupe? Je trouve que ça c'est un animal assez passionnant et j'adore ça depuis tout petit.
Là, parce que c'est vrai que c'est un animal, comme tu l'expliquais, hein. Il y a beaucoup d'histoires, de légendes. Parfois, le loup, il a aussi un rôle un peu effrayant dans les contes pour enfants.
Ouais.
Et voilà, donc je regarde ton voisin qui est là aussi. Est-ce que toi, tu as des choses à dire sur le loup? Est-ce que tu as des souvenirs d'histoires ou de contes?
Oui, plusieurs. Enfin, c'est vrai que c'est souvent le grand méchant dans les histoires, le grand méchant loup, comme avec... c'est le Chaperon Rouge ou dans Pierre et le Loup aussi, où il tient un peu le rôle du grand méchant.
Pierre et le Loup, de Prokofiev. Ah.
Ce matin, il fait beau. Tout est tranquille. Et nos deux amis ont encore trouvé un nouveau jeu. Voilà le canard qui s'en va prendre son bain. Comme vous allez le constater, il lui arrive toujours de drôles d'histoires. Thank you. Les voilà qui se disputent encore. L'oiseau dit au canard, mais quel drôle d'oiseau es-tu, toi qui ne sais pas voler. Et le canard, vexé de lui répondre, mais quel drôle d'oiseau es-tu, toi qui ne sais même pas nager. Et ils discutent, à n'en plus finir.
Voilà, nous venons d'écouter un extrait de Pierre et le loup de Prokofiev. Et il me semble, Dylan, que tu voulais ajouter quelque chose.
Oui, les meutes de loups sont souvent composées de 11 à 14 loups. La meute de loups a un couple reproducteur. Les meutes de loups peuvent adopter des loups, mais c'est assez rare. Les loups qui se font adopter que s'ils ont moins de 5 ans. S'ils ont plus que 5 ans, ils sont souvent tués.
Je propose qu'on écoute un enregistrement justement de hurlements de loups pour que nos auditeurs tremblent un peu dans leur cuisine ou sur leur canapé. Et on se retrouve après. C'était un extrait d'un enregistrement de hurlements de loup arctique. Alors, ça semble un peu lugubre, peut-être, cette voix de loup.
Je m'imagine dans le noir, ça me ferait très peur.
Moi, je vous propose d'écouter une chanson où il est question de loup. Et c'est Serge Reggiani, ah oui, c'est une vieillerie, mais bon, et qui chante « Les loups sont entrés dans Paris ».
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfert, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana... Pour eux, c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors... Les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Et Black, il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de l'eau, oh, 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 de l'eau sont entrés dans Paris. D'un Paris C, l'autre Paris V. De l'eau sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre soir de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans l'eau, oh, 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 sans l'eau sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Évry, sans l'eau sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, sans l'eau sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, oh, 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 les loups ont envahi Paris. Soit par ici, soit par Évry, les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des 1000 et des 100 faire carousse, yes et bonbons dans ce foutu pays de France, jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, oh, 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 les loups sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par Évry, les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire, les loups sont sortis de Paris.
Messieurs, je vous remercie d'être venus dans la Méridienne pour parler des loups. Et voilà, je vous dis à bientôt. Et chers auditeurs, cette émission se continue. Elle se continue même ici en studio. Elle se continue par une chronique de Quentin. Quentin Rochou, notre stagiaire de 3e. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Alors, c'est ton dernier jour de stage. Et en cet honneur, tu nous as préparé une chronique. De quoi souhaites-tu nous parler ?
Eh bien, je vais vous parler d'une association qui me tient à cœur, l'association Jeunes Reporters, car je suis adhérent depuis 2 ans. L'association a été créée en 2017, suite à un projet scolaire. En 2007, Gaëtan Després, professeur des écoles, initie avec ses élèves de CE2 un blog où chaque élève propose ses articles. Grâce à eux, les Jeunes Reporters de Bourgueil ont pu exister. Maintenant, Gaëtan est président de l'association, et des élèves sont devenus membres du bureau comme Léa et Marie. Les Jeunes Reporters sont des enfants qui ont entre 8 et 18 ans, comme moi. Ils rédigent des articles sur les sujets qu'ils souhaitent, comme un festival, un sport, une musique, un concert, un spectacle, ou même sur une personnalité. Après, il est publié sur les blogs 8, 13 et 13, 18 ans, selon l'âge du jeune. Mais ce qui est davantage intéressant, c'est que l'association est parrainée par des étudiants de l'École publique de journalisme de Tours, le PJT. Les étudiants corrigent nos articles et viennent quand ils peuvent à notre conférence de rédaction le troisième samedi de chaque mois. Pendant la conférence de rédaction, ils nous font des formations, par exemple sur l'interview, l'angle, c'est-à-dire le thème. Si vous souhaitez, vous pouvez les retrouver sur nos blogs en fiche conseil. Les formations sont très importantes pour nous car elles nous permettent de produire des articles de meilleure qualité en utilisant des règles comme les 5W pour construire l'introduction. À part des articles rédigés, nous pouvons faire des reportages photos, des interviews sonores ou écrites. Pour les interviews, comme nous sommes plus jeunes, les personnalités nous répondent plus facilement. C'est un avantage. C'est notamment ce qui s'est passé avec François Hollande quand il était président de la République. Il a préféré aller voir un jeune reporter que les médias internationaux. François Hollande n'est pas le seul. Il y a aussi Lio, Bernard Cazeneuve, Kenji et d'autres personnes plus ou moins connues. Bientôt, peut-être que la chanteuse Angèle sera interviewée par l'un de nos jeunes. Pour ma part, j'ai pu poser une question l'année dernière à Harry Roselmack lors des Assises internationales du journalisme à Tours. Si vous souhaitez lire et écouter nos articles, vous pouvez aller sur www.jeunereporter8ans10-13ans.fr ou www.jeunereporter13ans18ans.fr. Vous pourrez également venir nous voir à notre stand aux Assises internationales du journalisme, du 1er au 4 avril à l'espace MAM de Tours. Mais peut-être que Radio Campus.
Alors oui, Quentin, nous serons également aux Assises du journalisme en tant que Radio Campus France, puisque ça fait quand même des années que le réseau Campus France est partenaire des Assises du journalisme. Donc a priori, nous aurons notre joli studio sur place pendant toute la durée de la manifestation. Et j'espère que nous aurons le plaisir d'y croiser les jeunes reporters. Peut-être même que vous nous ferez le plaisir de venir sur notre plateau pour faire des chroniques, voire des interviews, pourquoi pas. Alors, est-ce que tu aspires à être journaliste, Quentin ?
Oui, pourquoi pas, ça me plairait beaucoup. Je suis en sorte de pouvoir le devenir.
Alors, quel média t'intéresserait le plus ?
Pour l'instant, j'aime bien la presse, je lis le journal tout le temps, mais je sais pas, je verrai selon ce qu'on me propose.
Voilà, donc... À bons entendeurs, peut-être que d'ici quelques temps, tu chercheras un autre stage dans un autre média. Voilà, bon, bah ce sera le moment des assises pour essayer de voir où est-ce que tu pourrais aller en stage. Merci beaucoup à toi, Quentin, pour cette chronique sur les jeunes reporters de Bourgueil. Je vous propose de faire une pause musicale. Nous nous retrouverons ensuite pour écouter un enregistrement que j'ai pu réaliser hier à la Ligue contre le cancer à l'occasion de la rencontre mensuelle Littérature et gourmandise. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais écoutons d'abord un peu de musique.
Thank you.
De retour sur Radio Campus Tour, nous écoutions Michel Benita, album Ethics, et le morceau en question, c'était Free at Last. Encore mon excellent accent anglais qui vient de frapper. Et chers auditeurs, je vous propose d'écouter le reportage promis. Donc c'est une incursion dans la rencontre mensuelle littéraire proposée par la Ligue contre le cancer. Et cette rencontre permet à des femmes et des hommes d'ailleurs de venir parler de leur coup de cœur littéraire. Et tout en dégustant, donc là cette saison c'était de la galette, je vous propose d'écouter un extrait de ce reportage que vous pourrez retrouver en format plus long sur le site de la radio, voilà, sur le site de Radio Campus Tour. C'est parti, on se retrouve tout de suite après.
Alors Marie Pressé, je suis coordinatrice du comité d'Indre-et-Loire de la Ligue contre le cancer. Et pour vous présenter en quelques mots la Ligue, donc on a trois principales missions. La première est tout ce qui est le financement de la recherche. On finance des programmes de recherche au niveau de l'interrégion, du régional, mais également au niveau du national. La deuxième mission, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est tout ce qui est accompagnement des malades et des proches, avec tout ce qu'on fait pour les personnes qui sont fragilisées, le temps de la maladie et un petit peu après. Et la troisième, c'est tout ce qui est prévention, dépistage, c'est-à-dire l'information au grand public sur les comportements à risque et comment essayer de se prémunir du cancer. Et donc, pour parler en particulier de tout ce qui est action pour les personnes malades, on a un atelier rencontre littéraire et gourmande qui est animé par deux bénévoles, Monique et Françoise, et qui a pour but, une fois par mois, de réunir les personnes qui sont passionnées autour de la lecture, mais tout en gardant une certaine convivialité, l'esprit de partage. Et elles échangent ensemble sur les différents ouvrages qu'elles ont pu lire. Et on tient aussi à souligner le partenariat de la Bibliothèque municipale de Tours, qui depuis des années nous suit à travers cet atelier.
Est-ce que vous voulez préciser justement le rôle de la Bibliothèque municipale ?
Eh bien, écoutez, c'est sur le prêt de livres et puis aussi sur l'accompagnement lors de ces séances, parce qu'elles peuvent aussi guider, partager certaines expériences, et il y a un compte rendu qui est fait aussi tous les mois sur les ouvrages qui ont été lus par chacune, pour permettre et chacune et chacun, parce qu'on a aussi des hommes dans le groupe, pour permettre un petit peu de retrouver les notions essentielles qui ont été évoquées lors de ce groupe.
Et c'est-à-dire que ces comptes rendus, ils sont à retrouver sur le site. S'il y a des personnes qui sont intéressées par toutes ces chroniques qui sont ici, est-ce qu'on peut les lire ?
Alors, on ne les a pas sur le site internet, mais pour autant, il y a un partage par mail qui se fait à toutes les personnes du groupe présentes et celles qui n'ont pas pu être là aussi le jour. Donc, il y a une base de données qui se crée et qui est gérée aussi par la bibliothèque et par les Françoise et Monique qui gèrent le groupe bénévole à la Ligue et qui permet d'échanger par mail pour un partage du compte-rendu avec chacun.
Et comment on fait si on veut rejoindre ce groupe de lecture ?
Eh bien écoutez, on est ouvert à toute inscription, il y a juste à contacter la Ligue, nous appeler et après il y a juste une inscription nous à faire ici en interne et chaque personne peut venir y participer tous les mois avec grand plaisir.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors vous êtes les deux bénévoles en charge de cet atelier lecture. Est-ce que vous voulez nous expliquer comment ça se déroule, combien de personnes y participent, quelle est la fréquence et surtout pourquoi vous avez eu envie de proposer cet atelier ?
Alors cet atelier existait avant que Monique et moi-même en prennent la charge. Il était en fait c'était Sabine qui s'occupait de cet atelier de lecture. Sabine n'étant plus là, on a décidé Monique et moi de reprendre cet atelier. On a décidé de le reprendre parce que déjà on a ça a été très très important pour nous, puisque étant à la Ligue, ça veut dire aussi qu'on a été malade. Et quand on est venu ici, on a trouvé beaucoup de réconfort.
Oui, alors moi je suis venue à l'atelier en 2010, malade, en chimiothérapie. Et c'est vrai que quand j'avais été accueillie ici par Sabine, qui faisait aussi une journée de bénévolat par semaine, et qui accueillait donc de nouvelles malades, elle nous posait toujours la question, si elle a accueilli d'autres personnes, elles s'en rappelleront, est-ce que tu aimes lire ou est-ce que vous aimez lire ? Alors, quand on entendait ça, c'est, quand on est lectrice, c'est vrai que nos yeux s'allument. Et au milieu de tous les médocs et les traitements et tout, enfin quelqu'un qui nous parle d'autre chose, bien que ce soit à la Ligue contre le cancer. Et donc, je suis venue en 2010 et je n'ai jamais quitté le groupe. Quand j'ai repris mon travail, parfois, il m'est arrivé souvent de demander ma demi-journée. Et je venais une fois par mois parce que j'aimais vraiment retrouver toutes ces personnes, des nouvelles, parce que ça tournait. Alors là, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui restent depuis un certain temps. Donc c'est bon signe, ça veut dire que ce groupe fonctionne très très bien et qu'il amène toujours quelque chose à ces personnes qui viennent depuis si longtemps.
Voilà, on voit aussi qu'il y a une complicité qui se crée entre vous, parce qu'on voit que les personnes, on sent une bienveillance. Et voilà, vous disiez tout à l'heure, une personne qui disait que même les personnes de la bibliothèque savent après qui aime quoi comme ouvrage et peut apporter les livres.
Tout à fait. Tout à fait. Alors en fait, c'est Sabine qui avait créé ce partenariat. Et puis, par exemple, si je parle de moi, je me souviens que parfois, au début, je disais à Emmanuel, mais c'est incroyable ça, tu devines ce que j'ai envie de lire. Et en fait, les comptes rendus qu'elle fait, elle les fait lire aussi à des gens qui travaillent à la bibliothèque et qui arrivent finalement, on les a rencontrés nous, on les rencontre souvent au mois de juin. Ils se font un peu un profil de chaque personne ici et ils voient à peu près ce qu'elle pourra aimer ou ne pas aimer. Et ça, c'est vraiment très sympa. Hein. Et quand on les croise en juin, bah, on les remercie.
Oui, on les remercie beaucoup. Et aussi, on a la possibilité de commander les livres susceptibles de nous intéresser. Alors, la fréquence, on se retrouve une fois par mois, le dernier jeudi de chaque mois. Autour de petits gâteaux et surtout on arrive avec nos lectures. Alors on raconte le livre que l'on a aimé et on le partage avec les autres.
Est-ce que ça donne envie aussi de lire d'autres livres parce qu'on amène les siens, mais peut-être que ça rend curieux. Je vois qu'autour de la table...
Oui, parce que chaque personne expose ce qu'elle a lu et ça nous donne extrêmement envie, souvent évidemment, parce que quand on lit un dernier de couverture, bon, c'est pas pareil. Et en plus aussi, maintenant, comme on se connaît bien, on sait qu'on va aimer la même chose que telle ou telle personne. Donc on sait que si cette personne, elle a aimé ça, alors là, vraiment, certaines se disent « ça va me plaire ».
Oui, moi, chaque fois que je lis un livre, je pense vraiment à toutes les personnes qui sont autour de la table. Et alors, le livre sur Napoléon, j'ai vraiment pensé à Nicole, et effectivement, elle a beaucoup aimé. Il y en a un autre, sous la tonnelle, j'ai pensé à Monique qui ne l'a pas lu encore, mais je suis certaine que ça va lui plaire. Donc voilà, en lisant, on pense vraiment aux autres aussi.
Et alors, on découvre des auteurs aussi, bien sûr. Et on découvre aussi la manière dont chacun ou chacune perçoit un auteur. Et ça, c'est très intéressant.
Alors en plus, on voit sur cette table, donc il y a des romans, il y a de la bande dessinée. Donc ça veut dire qu'il y a quand même tous les genres.
Ah oui, parce qu'on a des spécialistes de bande dessinée ici. Donc, elles nous en parlent beaucoup. Et alors, moi, j'ai découvert, j'aime pas la bande dessinée, mais je reconnais que parfois, il y a des bandes dessinées qui traitent des sujets vraiment très, très bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, j'ai lu une bande dessinée, ce que je fais extrêmement rarement, qui s'appelle Tiananmen 1989. Et franchement, c'est remarquable.
Ce n'est pas que pour les enfants.
Ce n'est pas que pour les enfants, les bandes dessinées. Non, 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 non. Et c'est bien parce qu'autour de la table, donc on a vraiment une spécialiste des bandes dessinées, deux d'ailleurs, parce qu'Emmanuel également. Et c'est très intéressant parce que ça nous donne vraiment une ouverture différente sur le monde de la culture, du livre.
Alors, je me tourne à présent vers notre bibliothécaire, notre représentante de la bibliothèque municipale. Donc, comment on opère ce choix de livres ? Parce qu'il y en a plein sur la table. Comment vous faites ?
Alors, il y en a plein sur la table, mais c'est un tout petit morceau de ce qu'on a dans les bibliothèques, bien sûr. Au moment où on fait la sélection, déjà, je ne fais pas la sélection toute seule. Lys, qui m'accompagne régulièrement aux rencontres de la Ligue, participe. Et puis, on fait appel à nos collègues de la section adulte, essentiellement, pour connaître leur coup de cœur à eux. On emporte dans notre valise des coups de cœur de nos collègues, on emporte des choses que les participants au groupe de lecture nous demandent, quand ils aiment bien un genre particulier, un thème, un auteur, un dernier livre sorti, on essaie de l'emmener avec nous. Et puis un peu au hasard aussi, il faut bien reconnaître, au bout de plusieurs années, ça fait depuis 2008 que je participe à ce groupe de lecture, ou 2009, il y a quelques personnes que je connais depuis un petit moment maintenant. Donc on sait les histoires, les biographies, les histoires de femmes, les auteurs scandinaves, les romans policiers, les BD. On pense à telle ou telle personne quand on choisit. On dit tiens, peut-être ça, ça pourrait plaire. On tente, Parfois, c'est une réussite. Parfois, ça marche pas trop, mais c'est pas grave.
Oui, parce qu'on a le droit aussi de ne pas aimer un livre.
Oui, tout à fait. Là, autour de la table, c'est vrai qu'on passe plus de temps à parler de ce qu'on a aimé pour le vendre, entre guillemets, aux autres. Mais parfois, on est déçu et on peut le dire aussi. Je pensais que ça allait me plaire et puis en fait, non. J'étais déçu par le style, j'étais déçu par l'histoire, j'étais déçu par la chute. Ça peut être intéressant à partager aussi comme retour.
Est-ce que les personnes participantes à cet atelier vont régulièrement dans les bibliothèques?
Je pense que oui, pour une partie en tout cas. Pas forcément celle de Tours, mais c'est pas grave du tout. On n'est pas du tout en concurrence avec nos collègues des autres bibliothèques de la région. Pour une part, mais c'est pas du tout obligatoire. Je pense qu'il y a aussi des passionnés qui vont beaucoup en librairie, par exemple. Et puis, on parle pas toujours que de livres. Hein. Parfois, on parle de spectacles, de cinéma, voilà, plein de choses.
Bien, merci.
Alors, j'ai plusieurs livres qui m'ont plu, à des degrés différents. J'ai envie d'enchaîner avec un livre un bouquin qui fait le lien avec le Kaufmann que tu as présenté tout à l'heure. C'est un tout petit roman de Balzac. Et bon, vous savez, je crois qu'à chaque fois, je présente un Balzac. Donc celui-là, il est vraiment petit. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de plonger dans Balzac, pourquoi pas commencer par celui-ci. Ça s'appelle « Adieu ». Bon, voilà, j'ai eu tout à fait par hasard celui-ci. Mais dès le résumé derrière, je me suis dit « Waouh !» En fait, ça se passe en 1819. C'est l'histoire de deux amis qui sont chasseurs et qui... voilà, se promènent dans la forêt d'Île-de-France. Et tout d'un coup, ils aperçoivent une silhouette féminine. Et là, un des deux reconnaît une femme qu'il a vue 6 ans avant à Bérézina. Donc là, voilà, on plonge dans l'univers de Napoléon. Cette femme... Elle était donc là-bas tout à fait par hasard, pas du tout dans le combat, mais elle devait passer le pont de Bérézina, et vous connaissez toute l'histoire, et toute sa famille est morte là-bas. Et donc cette femme est devenue folle, et elle ne dit plus qu'un seul mot, adieu. Et l'homme en question va essayer de se rapprocher d'elle et de revivre l'histoire qu'il avait commencé avec elle, mais toutes les difficultés vont arriver. C'est du bon Balzac, c'est chouette. Un autre bouquin, alors une bande dessinée très surprenante. Alors, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, déjà, le sujet, c'est Primo Levi. Primo Levi, hein, voilà. Le sujet est en or, hein, entre guillemets. La forme de la BD est très particulière. Aussi bien... Alors, déjà, il est épais comme un livre, oui. Aussi bien par son graphisme, qui est très, très naïf, très sobre, sans couleur, une seule couleur, hein, vous voyez. Mais également par la manière de raconter l'histoire. En fait, Pietro Scarnera va enquêter sur les lieux où a vécu Primo Levi, tous les lieux qu'il a rencontrés. Et du coup, ça nous fait une BD un peu enquête. Moi qui en ce moment fais de la généalogie, j'y retrouve un peu ma passion, quoi. Il veut vérifier toutes les données. Et en fait, on a une histoire de Primo Levi qui est très différente de tout ce que moi personnellement j'ai lu. J'ai appris énormément de choses. Et bon, voilà, on découvre... On en apprend beaucoup sur Primo Levi, mais également sur ce style de BD. J'ai vraiment apprécié. Je remercie vraiment. C'est une découverte. Voilà, super. Un autre bouquin. Alors, celui-ci, je l'ai acheté suite à une émission de radio que j'ai entendue. Oui, ça m'arrive d'écouter la radio. Je crois bien, oui. Donc, c'est d'Alain Corbin. Un bouquin qu'il a écrit il y a déjà quelques temps, ça s'appelle « Le monde retrouvé » de Louis-François Pinago. Il y en a qui connaissent peut-être, non ? Oui ? Non ? Alors, en fait, ce bouquin, rien que l'émission, je me suis dit « Waouh, c'est incroyable ce truc !» Alain Corbin est un, je dirais, sociologue-historien, je ne sais pas lequel va devant, ou historien-sociologue, et il s'est donné un défi, retracer la vie d'un illustre inconnu. La seule chose qu'il s'est autorisé, c'est que ce soit dans l'Orne, le département de l'Orne, parce que c'est là où il habitait et c'est les archives qu'il connaissait le mieux. Donc il est allé aux archives de l'Orne et il a tiré au sort un homme. Il a choisi un homme plutôt qu'une femme, pour les bonnes raisons qu'on a plus d'écrits sur les hommes que sur les femmes. Je ne vais pas vous rappeler à quel moment nous, les femmes, on a pu voter, donc vous voyez tout le reste, c'est pareil. Hein. Donc il a pris un homme et l'autre, il s'est trouvé qu'il en a tiré trois au hasard et il a éliminé les deux qui avaient une vie assez courte pour choisir Louis-François Pinagot. Alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai passé mes vacances dans l'Orne à rechercher des ancêtres personnellement dans le Perche. Cet homme-là, il est sabotier dans le Perche, comme mes ancêtres. Bon, ça rajoute évidemment de l'intérêt. Mais ce qui est incroyable, c'est d'écrire un bouquin de combien de pages, je ne sais plus, enfin vous voyez un peu, 300 pages, 330 pages, sur un illustre inconnu. Et l'émotion qu'il a, c'est quand cet illustre inconnu va faire une croix. Parce qu'il ne sait pas écrire, bien sûr, il ne sait pas signer. Mais le dernier moment, il a enfin découvert une croix très très malhabile. Mais ça y est, notre Louis-François a pris un crayon. C'était la première fois. Alors, grâce à tout ce qu'il a pu trouver dans les archives, tout est scientifiquement prouvé. Et la preuve, c'est que les notes, elles doivent faire tout ça, quoi. Voilà, ça, ce sont les notes. Donc, pour chaque information qu'il nous donne, il nous dit à quel endroit on peut retrouver l'information. Alors, tout, hein, les informations militaires, les recensements. Il est allé voir toutes les histoires du village. Enfin, et on a toute la famille de cet homme. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Voilà. Un tout autre livre, ça s'appelle Le Roi Chocolat de Thierry Montoriol. Alors, je ne connaissais ni d'avant ce bouquin. Je l'ai pris seulement par la couverture, les bananes. Et voilà, ça m'a suffi pour me dire, tiens, voyons, soyons curieuses. Oui, c'est ça, il y a Banania. Bon, on devine un peu Banania. Mais je peux vous dire que dès le départ, on ne voit pas du tout où ça nous mène. On part, donc c'est un journaliste, Victor, qui nous emmène en Amérique latine en 1910 et il s'en va pour inaugurer l'opéra de Buenos Aires, qui a une très belle réputation et donc il a vraiment, c'est ça son objectif. Alors comme en 1910, quand on veut traverser l'Amérique latine, ça ne se fait pas tout seul, il va devoir faire avec les conflits, parce qu'il y en a énormément, les difficultés, et il va croiser une femme assez particulière, hein, très très, comment dire, d'une grande personnalité, pendant tout son trajet. Il faut vous dire qu'il est marié, qu'il a une vie déjà en France, mais bon voilà, cette femme va lui apporter... Enfin, on va la retrouver tout le long du roman. Et il revient en France, toujours avec l'idée d'être journaliste pour cet opéra, et on ne sait pas ce qui s'est passé, enfin si, on voit la guerre 14 qui approche, et puis les événements en France, et son journal s'effondre, il n'a plus de travail là où il travaillait comme journaliste. Alors, il repense à quelque chose qu'il a bu, là-bas, en Amérique latine, avec une de ses femmes, parce qu'il faut vous dire qu'il a eu des mariages un peu entre guillemets, d'obligation. Enfin, bon. Il y en a une qui lui a fait découvrir un breuvage très très particulier. Et il n'a de cesse que de retrouver le goût de ce breuvage pour faire plaisir à ses enfants. Au départ, c'était ça son objectif, retrouver ça pour l'anniversaire de son fils. Il va mettre un temps fou, il va organiser ça dans son garage. Il se souvient qu'il y avait de la banane, donc il essaie avec la banane. Il a donc des fèves, il avait ramené ses fameuses fèves, on ne sait pas trop comment il les utilise. Enfin, il cherche. Et un jour, il comprend qu'il fallait mettre de l'orge. Enfin bref, je ne voulais pas vous faire de la chimie, mais il y a toute une recette, bon, c'est entre la cuisine et la chimie, et il finit par découvrir quelque chose de magique, qu'il fait d'abord apprécié par ses enfants, sa famille et ses amis, et puis petit à petit, tout le monde trouve ça délicieux. Vous avez deviné, hein, c'est du chocolat. Maintenant, il s'agit de trouver le nom. On arrive à la guerre 14, et notre homme a envie de faire plaisir. Lui, il ne peut pas aller sur le front. Je crois qu'il a un problème de santé, l'âge, et puis les enfants. Enfin bref, il ne va pas sur le front, mais il a envie de...
de faire plaisir aux gens qui malheureusement sont là-bas. Donc il va s'aider de ses connaissances en tant que journaliste pour pouvoir approcher le front et offrir aux soldats cette fameuse boisson. Et alors là, il y a un monsieur très noir qui va, avec un grand sourire, lui montrer qu'il apprécie énormément. Ce monsieur, vous l'avez retrouvé, vous le retrouvez sur les boîtes de chocolat Banania. Et c'est d'ailleurs celui qui va donner le nom de Banania. Voilà. La suite est moins drôle. Je l'ai vérifié sur Internet pour voir un peu comment l'entreprise Banania, qu'est-ce qu'elle est devenue. Elle s'est complètement effondrée. Maintenant, elle est allemande, pour vous dire ce qui se passe en 2020. Ça a commencé à s'effondrer avec... la fin de la vie de cet homme qui a été mal conseillé, une affaire financière, je voudrais bien dire merdique, mais enfin, c'est pas un mot qu'il faudra gommer, juteuse. Voilà. Voilà. Bref, la fin n'est pas drôle, mais c'est la fin et c'est une biographie de cet homme. Alors, pourquoi Thierry Montoriol a-t-il écrit cela? J'ai regardé un peu, je connaissais pas cet auteur. En fait, il est navigateur, il est journaliste, et visiblement, c'est que ce Victor est de sa famille. Donc, il raconte un peu l'histoire. C'est à nouveau une histoire généalogique, je n'en sors pas. Un autre, juste un petit mot sur un tout petit bouquin qui est publié par la ville de Tours. Donc, j'en profite pour dire, voilà, c'est très très chouette. Ça coûte 6 euros, ça s'achète en librairie, voilà. Et quand Honoré de Balzac vivait et séjournait à Tours, eh bien, j'ai découvert dans ce bouquin des médias, des images que je ne connaissais pas, entre autres ce merveilleux plan de Tours. Voilà. Et ça se lit très bien, on apprend des choses sur la vie de Balzac à Tours. Et vu que c'était l'année de Balzac, voilà, je vous le conseille.
Et voilà, c'était une incursion dans l'atelier gourmandise et littérature proposée par, comme vous l'avez compris, la Ligue contre le cancer. Voilà, donc je vous invite à aller sur le site de Radio Campus Tours pour écouter la suite de ce reportage. Je remercie bien sûr la bibliothèque municipale de Tours qui a invité Radio Campus Tours à se joindre à cette rencontre mensuelle à la Ligue contre le cancer. Voilà, je rappelle que nous avons un partenariat avec la bibliothèque municipale dans le cadre de la Méridienne. Ce qui nous permet d'avoir le grand plaisir d'accueillir des chroniques de nos bibliothécaires préférés sur nos ondes. Alors Quentin, cette émission touche à sa fin et j'ai une question pour toi. Ce serait quoi la radio de tes rêves?
Ah ah, il y en a tellement qui sont bien. Je sais pas moi, j'ai pas d'idée précise, mais pourquoi pas revenir à Radio Campus Tours en tout cas.
Ah, revenir à Radio Campus Tours. Et alors, à ton avis, une radio intéressante pour les jeunes de ton âge, c'est une radio où on entend quoi, où il se passe quoi?
Qui ait des informations sur les jeunes, pourquoi pas. Comme là, avec l'université de Tours, ça peut être pas mal pour eux. Et ce qui est très informatif, mais... Oui, et des musiques qui leur plaisent aussi. Ce qui est quand même plutôt le cas ici.
Bon, en tout cas, des émissions où les jeunes participent.
Oui. Oui, c'est très bien comme ça.
Bon. Eh bien, merci à toi, Quentin, d'être venu en stage à Radio Campus Tours. Voilà, on rappelle que tu es bénévole chez les jeunes reporters de Bourgueil et que si nos auditeurs sont intéressés par les jeunes reporters, s'ils souhaitent y adhérer, ils peuvent évidemment le faire. Et oui, parce que c'est à Bourgueil, hein, mais tu le disais, ce n'est pas réservé qu'aux jeunes de Bourgueil. On peut évidemment...
Non, il y en a quelques-uns qui viennent de Tours, alors du covoiturage s'organise et ça se passe très bien.
Voilà, et en plus, vous venez aussi couvrir des événements à Tours.
Oui, comme les Assises internationales du journalisme, du 1er au 4 avril prochain à l'espace MAM. Donc vous pourrez venir nous voir sur notre stand si vous le souhaitez.
Voilà, alors on a parlé des Assises, hein, voilà, Campus y sera aussi. Et on vous retrouvera là-bas avec plaisir. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, chers auditeurs. Et je vous propose d'écouter à nouveau un peu de Michel Benita, album Ethics. Et nous allons écouter quelque chose, donc préparez-vous à entendre à nouveau mon excellent accent anglais. Et nous allons écouter, j'hésite, nous allons écouter Green Power. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.